Vous écoutez, on lit pour vous.
Marcher, c'est bien, plus vite, c'est mieux. Un texte de Catherine Anfield, paru le 15 décembre 2024 dans la presse. En voiture, augmenter sa vitesse de 1 km/h, ça ne change rien. Mais pour un humain qui marche, 1 km/h de plus, ça fait une réelle différence sur la santé. Études à l'appui, le physiothérapeute et auteur Denis Fortier nous explique comment. Un autre indicateur. Qui dit marche, pense souvent à nombre de pas par jour. C'est un indicateur précieux, soit, mais il en existe un autre dont on parle beaucoup moins, la vitesse à laquelle on marche. Plusieurs études récentes porte sur la question. Et les résultats donnent envie d'accélérer la cadence. Dans ces études, presque tous les chercheurs concluent ceci. Pourquoi on ne le dit pas plus? Pourquoi on ne le met pas dans des politiques de santé publique? Ça ne coûte rien d'informer les gens. C'est donc ce que Denis Fortier fera dans cet article. Vitesse de croisière. À quelle vitesse marchons-nous? La vitesse moyenne normale dans la population générale est d'environ 4 km par heure, indique Denis Fortier. Si vous vérifiez la statistique sur votre montre intelligente ou dans l'application santé de votre téléphone, vous devriez obtenir ce genre de moyenne ou un peu moins si vous marchez lentement. Quand on passe simplement de 4 à 5 km heure, ça fait une différence sur notre santé, indique Denis Fortier. En nombre de pas, ça implique de passer de 1000 pas en 10 minutes, vitesse normale, à 1000 pas en 7 à 8 minutes, vitesse rapide. Diminution de la mortalité. La marche rapide est associée à des bienfaits sur tous les plans. Quand on fait des études populationnelles, on constate que les gens qui marchent plus rapidement vont mourir plus vieux, résume Denis Fortier. Pourquoi? Parce que ça diminue la prévalence de plusieurs problèmes de santé. Maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, cancer, démence. C'est une relation qui va dans les deux sens, bien sûr. Quand on est malade, on marche moins vite. Mais quand on marche lentement par habitude, ou parce qu'on perçoit l'effort d'un mauvais œil, on se prive aussi d'un précieux facteur de protection. Moins de diabète. Dès que l'on dépasse la cadence de marche de 4 km/h, le risque d'avoir le diabète de type 2 diminue de façon significative, selon une revue systématique récente. Chaque augmentation de 1 km/h de la vitesse de marche était associé à une diminution de 9% du risque, indique Denis Fortier. Avec une marche rapide d'environ 6 km/h, on réduit jusqu'à 39% du risque de diabète. Autrement dit, pour 100 personnes, on éviterait 2,24 cas de diabète de type 2. C'est considérable, dit-il. Quand on marche rapidement, l'entièreté de nos muscles, ou presque, se contracte et les muscles consomment du sucre, souligne le physiothérapeute. C'est donc intuitif de penser que ça a bien des bienfaits sur le diabète, illustre-t-il. Hypertension. Au Québec, une personne sur quatre souffre d'hypertension et cette proportion passe à 7 sur 10 chez les septuagénaires. C'est à tomber sur le dos, résume Denis Fortier, auteur du livre « Plus jamais malade ». Chez les personnes hypertendues, la vitesse de marche est associée à une diminution significative du risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, foie, poumon, endomètre et de diabète de type 2, selon une étude récente menée auprès d'une large cohorte. On dépense plus d'énergie, on augmente notre métabolisme et on a un effet positif sur l'inflammation chronique de bas niveau associée à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires et à l'hypertension, explique Denis Fortier. Intensité avant tout. Une vitesse de 5 km/h, ça peut être déprimant comme objectif quand on part de loin. Denis Fortier est bien d'accord. Si les grandes études se basent sur la vitesse de marche, c'est parce que c'est plus facile ainsi. Mais ce qui compte vraiment, dit-il, c'est l'intensité de l'exercice. C'est d'intensité que je parle avec mes patients, indique le physiothérapeute. Il conseille aux gens de se trouver deux vitesses de marche, une modérée, on peut parler mais pas chanter, et une soutenue, on ne peut pas parler. Ces vitesses vont varier d'une personne à l'autre, en fonction de la longueur des jambes, de la forme physique de départ, etc. Et on peut y aller par intervalle. Donc, 30 secondes rapidement, explique-t-il. Et il ne faut pas oublier ceci, les personnes qui bénéficieront le plus de trouver une petite place dans leur vie pour la marche rapide, ce sont celles qui sont le moins en forme, qui sont à risque de diabète, qui sont hypertendues. Bien-être. C'est rare qu'on revienne de marcher en se disant « plus jamais », souligne Denis Fortier. C'est universel, la marche. Tout le monde aime ça. Notre cerveau est fait pour être stimulé, notre corps aussi. Marcher, ça nous fait respirer et ça nous permet de nous réapproprier notre corps et de nous sentir plus efficaces. J'ai plein de patients qui ne marchaient plus depuis longtemps, qui le font maintenant et qui, enfin, ne se sentent plus exclus du concept de l'activité physique. Les conseils de Denis Fortier pour apprivoiser la marche dans le plaisir. S'équiper de crampons. L'hiver, c'est un incontournable. Marcher avec une autre personne. S'organiser pour que ce soit facile et l'intégrer à sa routine. Suivre l'évolution de son nombre de pas, ça peut être motivant. Se concentrer sur les bienfaits qu'on en retire, humeur, forme, sommeil, etc. Se donner 2 ou 3 semaines, le temps d'aimer ça. Pour augmenter l'intensité, marcher avec un sac à dos lesté. C'était « Marcher, c'est bien, plus vite, c'est mieux », un texte de Catherine Anfield, paru le 15 décembre 2024 dans la presse.
Année record pour la construction de logements sociaux à Longueuil. Un texte de Marco Fortier paru le 13 décembre 2024 dans Le Devoir. Des travaux de construction d'un immeuble de 30 logements sociaux viennent de commencer à 2 pas de ce qui était un campement d'itinérants à Longueuil. Ce projet de 17 millions de dollars n'est pas le seul à lever de terre. Un nombre record de 474 unités destinées à des personnes vulnérables seront mises en chantier en 2025 dans la 5e ville du Québec, a appris Le Devoir. Le bâtiment de 4 étages, dont les fondations prennent forme à l'angle de la rue Bourassa et du chemin du Coteau Rouge, hébergera 30 personnes qui sont prêtes à reprendre une nouvelle vie après avoir vécu dans la rue. Certains des futurs résidents auront peut-être habité temporairement dans l'église Notre-Dame-de-Grâce, juste à côté, qui fut un temps transformée en refuge, ou dans les tentes qui avaient poussé depuis 2 ans sur les pelouses du secteur. Le campement a été démantelé plus tôt à l'automne 2024. Les besoins sont immenses. Toutes les ressources des environs sont remplies, dit Marie-Claire McLeod, présidente des habitations communautaires Longueuil qui chapeaute le projet. On ne réglera pas l'itinérance juste avec ce projet-là, mais on va faire une très grosse différence dans la vie de 30 personnes. Ça va diminuer la pression sur les groupes communautaires qui sont débordés, précise la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Elle rappelle que le logement est une de ses principales priorités. La ville prévoit en 2025 d'avoir 474 logements sociaux et à but non lucratif en développement, horizon de 1 à 2 ans, et 2247 logements du même type en démarrage, horizon de 2 à 3 ans, du jamais vu. Le repas du passant, qui sert 450 dîners par jour dans le sous-sol de l'église voisine, déménagera dans le nouveau bâtiment baptisé « Un toit pour tous ». Une équipe d'intervenants aidera les 30 résidents à s'organiser pour éviter de retourner à la rue. Ces gens ont besoin d'un toit, d'une cafetière, d'une salle de bain et d'une porte qui se barre pour bien dormir. Le sommeil, c'est crucial, résume Marie-Claire McLeod, qui travaille depuis 24 ans dans le milieu communautaire à Longueuil. Explosion des loyers. Madame McLeod a vu ce quartier se transformer en profondeur. Les gens n'étaient pas riches, mais vivaient plutôt bien jusqu'à récemment, explique-t-elle. La pandémie a tout changé. Le quartier a commencé à s'embourgeoiser, les prix de l'habitation ont explosé et des gens se sont retrouvés à la rue par dizaines. Il n'y a pas si longtemps, un logement de deux chambres, un 4,5, se louait 450 $ et un de trois chambres, un 5,5, 550 $. Les mêmes appartements, plutôt modestes, sont désormais offerts à 1 000 $ de plus par mois, explique la gestionnaire. Une hausse insoutenable pour bien des locataires, même ceux qui travaillent à temps complet. On a des travailleurs sur les listes d'attente pour des logements sociaux. Ils n'arrivent plus à payer leur loyer, dit Marie-Claire McLeod en soupirant. La ville estime qu'un quart des ménages longueuillois rencontrent des difficultés en matière d'habitation, que ce soit en raison de la qualité, de la taille ou de l'abordabilité des logements. Aide alimentaire. Pas étonnant, dans ces circonstances, que la demande explose pour l'aide alimentaire. Marie-Claire McLeod, qui est aussi directrice générale de l'organisme L'Entraide chez nous, peine à financer les 250 paniers de Noël qu'elle distribue chaque année. Les donateurs sont moins généreux que par le passé. Les gens qui donnaient habituellement 50 $ nous donnent 20 $ cette année. La hausse du coût de la vie fait encore très mal, dit-elle. La gestionnaire compte sur des dons de grandes entreprises longueuilloises pour renflouer discrètement ses coffres. L'organisme Habitation communautaire Longueuil devra encore se démener pour financer la deuxième phase du projet « Un toit pour tous », prévu au coût de 22,4 millions de dollars. Les promoteurs espèrent renouveler la formule de financement de la première phase qui est payée par Québec, Ottawa et la ville de Longueuil. Quelques 54 logements viendront s'ajouter aux 30 de la première phase en construction. Le bâtiment, aussi de 4 étages, occupera en partie l'ancienne église Notre-Dame-de-Grâce, qui sera presque entièrement détruite, sauf la façade. L'église abritait le refuge La Halte du Coin, qui accueillait chaque nuit une 30aine de personnes itinérantes. Le refuge a déménagé au cours des derniers mois dans un bâtiment municipal du quartier. Malgré la présence d'une série de refuges, dont une halte répit pour les nuits d'hiver près de la station de métro Longueuil-Université de Sherbrooke, des campements subsistent à certains endroits, reconnaît la mairesse Fournier. Des intervenants viennent visiter tous les jours les campeurs pour les diriger vers les refuges d'urgence. C'était Année record pour la construction de logements sociaux à Longueuil. Un texte de Marco Fortier, paru le 13 décembre 2024 dans Le Devoir.
Les Québécois s'enrichissent malgré l'inflation. Un texte de Francis Vaille, paru le 20 décembre 2024 dans La Presse. J'ai été surpris par les conclusions sur le pouvoir d'achat des Québécois, autant que vous le serez après avoir lu cette chronique. Les faits chiffrés sont incontestables. Malgré la pandémie et l'inflation, les travailleurs québécois ont considérablement augmenté leur pouvoir d'achat ces dernières années, davantage que la plupart des contribuables dans le monde. et ce constat vaut pour à peu près toutes les strates de salaire. L'analyse a été faite par des chercheurs de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. L'étude ratisse large, analysant la situation de 8 ménages types dans 31 pays auxquels s'ajoute le Québec. Elle compare la croissance du revenu disponible des travailleurs adultes à temps plein de 65 ans et moins entre 2019 et 2023, soit entre l'année qui précède la pandémie et l'année qui suit sa fin. Le revenu disponible représente la part du revenu dont disposent les particuliers une fois les impôts et cotisations payés, à laquelle s'ajoutent les transferts reçus. En résumé, le pouvoir d'achat des célibataires au salaire moyen s'est accru de 8,9% entre 2019 et 2023 au Québec, une fois l'inflation prise en compte. Cette hausse place le Québec au troisième rang mondial des comparaisons. Pour l'ensemble du Canada, la hausse est de 7,1%. La situation des Québécois et des Canadiens tranche avec celle de la plupart des grands pays industrialisés. Une fois l'inflation retranchée, le pouvoir d'achat a été stagnant en France et aux États-Unis, alors qu'il a reculé de 3,2% en Italie et de 6,1% en Suède. Ce constat sur le pouvoir d'achat, très médiatisé en France, est probablement l'un des facteurs expliquant les tensions politiques dans ces pays, la classe moyenne sentant que la situation économique et géopolitique lui a fait perdre des plumes. Attention, le classement ne signifie pas que les Québécois ont un plus grand pouvoir d'achat qu'ailleurs. Il mesure la croissance de ce pouvoir d'achat sur 4 ans pour 8 ménages types, de la famille monoparentale aux célibataires aisés. Pour faire la comparaison, les chercheurs ont d'abord extirpé des données de Statistique Canada le salaire moyen des travailleurs à temps plein de 18 à 65 ans. En 2023, ce salaire moyen s'élevait à 82 648 $ au Québec, 88 130 $ en Ontario. Ce salaire est plus élevé que celui fréquemment véhiculé dans les médias parce qu'il exclut les travailleurs à temps partiel, de même que les jeunes de moins de 18 ans et les retraités de 65 ans et plus, dont les faibles rémunérations font baisser la moyenne de façon marquée. Tous les ménages analysés ont vu leur pouvoir d'achat augmenter, c'est-à-dire que leur revenu disponible a cru davantage que l'inflation sur la période. Pendant que le célibataire au salaire moyen voyait son pouvoir d'achat bondir de 8,9% sur 4 ans, les couples avec 2 enfants et 2 salaires voyaient le leur grimper entre 4,7% et 7,6% selon leur tranche de revenu, et la famille monoparentale avec 2 enfants de 2,5%. Bref, peu importe la situation, le pouvoir d'achat a grimpé. Comment expliquer cette hausse que plusieurs contesteront compte tenu de la hausse marquée des loyers, des paiements hypothécaires et des prix du panier d'épicerie? Diverses raisons expliquent cette situation, selon l'économiste Luc Godbout, l'un des co-auteurs de l'étude. D'abord, les salaires ont fortement augmenté en moyenne, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Ensuite, le régime d'imposition a été pleinement indexé, comme les versements des mesures sociales d'ailleurs, allocations familiales, crédits de taxes de vente, RRQ, etc. Enfin, les situations difficiles vécues par certains ménages, avec leurs prêts hypothécaires ou leurs loyers, ne touche pas l'ensemble des familles, seulement certaines, si bien qu'en moyenne, le pouvoir d'achat augmente. Par exemple, les locataires qui ne déménagent pas, la vaste majorité, ne voient pas leur loyer augmenter autant que ceux qui changent de logement. Les consommateurs ont l'impression qu'ils s'appauvrissent, mais en moyenne, ce n'est pas le cas. Ça ne va pas aussi mal qu'on le pense, surtout quand on se compare au reste de la planète, me dit Luc Godbout, qui note que les ménages fulminent quand le prix de l'essence grimpe, mais ne s'extasient pas quand il baisse. Les Européens ont été plus frappés par la hausse des prix de l'énergie et des approvisionnements qu'a provoqué la guerre en Ukraine. Et plusieurs administrations fiscales n'indexent pas les tables d'impôts ou les transferts sociaux comme au Québec. Cela dit, il est possible que les ménages ou quintiles inférieurs de revenus au Québec n'aient pas vu leur pouvoir d'achat augmenter, mais l'étude s'est arrêtée au cas type qui gagne 67 % du salaire moyen, soit 55 374 $. Les chercheurs ont aussi estimé l'évolution du pouvoir d'achat des Québécois pour l'année 2024, qui se termine bientôt avec un taux d'inflation de 1,9 %. Et ils constatent que le pouvoir d'achat s'est encore une fois apprécié par rapport à 2023, entre 0,7 % et 1,3 % selon les 8 cas types analysés. Cette fois, les hausses dans le secteur public sont incluses. Ce pouvoir d'achat s'est davantage apprécié au Québec entre 2019 et 2024, sur 5 ans, que dans les autres provinces dans 5 cas sur 8. Et l'année 2025 s'annonce prometteuse. Les chercheurs ne sont pas les seuls à avoir fait ce constat. Le directeur parlementaire du budget, DPB, concluait dans une étude récente que le pouvoir d'achat s'était accru entre 2019 et 2023 et davantage au Québec, 3,9 % sur 4 ans, qu'ailleurs. Le DPB a noté des écarts selon le niveau de revenu. Au premier trimestre de 2024, le quintile supérieur présente une augmentation de pouvoir d'achat de 6 % face au dernier trimestre 2019, tandis que le troisième quintile présente une augmentation de 5 % et le quintile inférieur présente une faible augmentation de 1 %, explique le DPB. Bref, c'est toute une surprise. Je vous l'avais dit. C'était « Les Québécois s'enrichissent malgré l'inflation », un texte de Francis Vaille, paru le 20 décembre 2024 dans La Presse.
Pour une mission de femme vers Mars, un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 août 2023 dans La Presse. Un équipage entièrement féminin devrait être envisagé pour une mission habitée vers Mars. C'est du moins la proposition de chercheurs de l'Agence spatiale européenne, ESA. L'objectif? Réduire la quantité de vivres et d'oxygène nécessaires pour le voyage de 6 à 8 mois. À taille égale, une femme consomme moins d'énergie et d'oxygène et libère moins de CO2 qu'un homme, explique Jonathan Scott, un physiologiste du Bureau de médecine spatiale de l'ESA, qui est l'auteur principal d'une étude publiée en avril dans la revue Scientific Reports. Et comme les femmes sont généralement moins grandes que les hommes, si on fixe une limite de taille plus basse pour les missions martiennes, on garde un plus grand bassin de candidats chez les femmes que chez les hommes. Selon l'étude, une femme de taille moyenne mange 38 % moins de protéines qu'un homme de taille moyenne. Et à taille égale, une femme dépense entre 5 % et 29 % moins d'énergie qu'un homme, selon une analyse de différentes activités physiques. De plus, la femme consomme 25 % moins d'oxygène qu'un homme en moyenne. Si on compare seulement la taille, un astronaute de 1,90 m consomme 44 % plus d'énergie qu'un confrère de 1,50 m et 60 % plus d'oxygène. Déficit en calories. Actuellement, les bureaux d'astronautes des différents pays ont des limites de taille allant de 1,50 m à 1,90 m. Cela signifie que certains des acteurs ayant joué des astronautes au cinéma, comme Clint Eastwood, Space Cowboys, ou Tim Robbins, Mission to Mars, ne pourraient pas devenir astronautes parce qu'ils dépassent 1,90 m. Cela dit, la NASA a longtemps utilisé une taille légèrement plus grande, 1,93 m, 6 pieds 4 pouces. La taille maximale va-t-elle être révisée pour une mission martienne? C'est possible, dit M. Scott. Pour une mission de courte durée, ou alors une mission de longue durée où il est facile de faire du ravitaillement, la consommation d'énergie et d'oxygène a peu d'impact sur le succès de la mission. Mais pour aller vers Mars, il faut compter de 6 à 8 mois, et on ne peut pas ravitailler la mission en route. Alors il se pourrait que la quantité de vivres et d'oxygène à apporter soit prise en compte, résume Jonathan Scott. Déjà, les astronautes mangent moins que ce qui est recommandé, probablement à cause du caractère peu appétissant des rations qui leur sont proposées. Sur la Station spatiale internationale, le déficit en calories est d'environ 25 % à 30 % indique M. Scott. Les femmes ont été considérées comme les meilleures candidates pour l'espace dès le début du programme spatial américain. Le programme Mercury avait un volet appelé « La femme dans l'espace en premier », WISE, basé sur ses besoins énergétiques et respiratoires moins grands et certaines considérations médicales, comme un risque moins élevé de crise cardiaque, rapporte l'étude de M. Scott. Mais WISE a été interrompu parce que Mercury a été réservé aux pilotes militaires, une carrière alors interdite aux femmes. Le médecin qui avait créé WISE, William Lovelace II, a poursuivi de manière privée son programme d'astronaute femme, avec 13 candidates qui n'ont finalement jamais décollé. Il a fallu attendre 1983 pour qu'une femme, Sally Ride, aille dans l'espace avec la NASA. Les Soviétiques, de leur côté, avaient envoyé Valentina Tereshkova dans l'espace dès 1963. Un peu plus de 10 % des astronautes qui sont allés dans l'espace sont des femmes. Mais l'actuel programme lunaire Artemis de la NASA est paritaire, 9 des 18 astronautes choisis étant des femmes. Et une femme, Susan Helms, est co-titulaire du record de longueur d'une sortie spatiale. Du côté du Canada, 2 des 11 astronautes qui sont allés dans l'espace sont des femmes. Parmi les astronautes canadiens actifs, on compte une femme, Jennifer Sidey, qui n'est jamais allée dans l'espace. L'Agence spatiale canadienne n'avait personne pour commenter l'étude de M. Scott. En savoir plus, source, Fédération internationale d'astronautique. 73, nombre de femmes qui sont allées dans l'espace. 549, nombre d'hommes qui sont allés dans l'espace. C'était Pour une mission de femmes vers Mars, un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 août 2023 dans la presse.